Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Aignot et vous êtes sur une leçon. Aujourd'hui, je suis avec Quentin pour cette leçon, fondateur du Champ des Caves, une très jolie entreprise que je vous invite à aller consulter. D'ailleurs, peut-être pour l'été, ça pourra vous plaire, puisque vraiment, il s'est mis en quête de faire connaître des viticulteurs français, des petits producteurs qu'on n'aurait pas forcément la possibilité de pouvoir connaître quand on va dans une cave ou quand on va en fait dans un supermarché tout simplement, et donc de simplement les mettre en avant, de les mettre en valeur pour faire connaître le terroir viticole français. Et Quentin est arrivé à un stade de son entreprise où il souhaite faire de la communication et se pose notamment la question des relations presse en me demandant assez simplement comment faire un dossier de presse, qu'est-ce que la différence entre un dossier de presse et un communiqué de presse, bref, avoir un peu le béaba de la presse. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé le sujet avec Gémio, puisqu'au début on n'avait pas d'argent et c'est comme ça vraiment qu'on a fait connaître la marque au début. Donc même si ça date un peu, puisque tout ça était en 2011, et bien malgré tout, j'ai eu quelques conseils à donner à Quentin. J'espère que vous passerez un très bel été, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin.
Salut Quentin.
Bonjour Pauline.
Ravie de t'accueillir aujourd'hui sur cette leçon. Écoute, d'abord, j'espère que tu vas bien. Et puis, j'espère aussi que tu as plein de choses à me dire. Est-ce que tu peux commencer, si tu veux, par me dire qui tu es, justement, te présenter, puis ensuite me dire ce qui t'amène sur cette leçon?
Oui, alors d'abord, pour commencer, merci beaucoup de m'avoir reçu. Donc, je m'appelle Quentin, je suis l'heureux cofondateur d'une jeune marque de distribution de vin, champagne.
Ah,
et,
génial.
Et tout récemment de spiritueux.
Qui s'appelle comment?
C'est pas indiscret. Qui s'appelle Le Champ des Caves.
Le Champ des Caves.
Voilà. Et donc nous, notre créneau, c'est de proposer à nos clients, donc qui sont aujourd'hui principalement des particuliers, des produits issus des petits producteurs, donc les petits vignerons en termes de superficie, car ils sont très très grands en termes de talent. Et donc c'est des produits que les gens ne peuvent pas forcément retrouver ailleurs que chez le vigneron lui-même, donc en se déplaçant au domaine, ou dans quelques restaurateurs et cavistes aux alentours du domaine. Et donc nous, on est parti à la recherche de tous ces vignerons-là qui méritent amplement d'être connus et d'être présentés à la France pour commencer. Et puis on espère plus tard à l'Europe. Voilà. Donc et puis.
Bah, tu me donnes des idées, écoute, tu vois. Moi, je suis assez amatrice, donc je suis actuellement sur ton site. Je vais aller creuser ça en détail. Mais alors, du coup, super projet. Et qu'est-ce qui t'amène ici? Quelle est ta question?
Alors, ma question aujourd'hui, c'est en termes de communication, parce que donc on a démarré en 2017. On s'est axé sur trois axes principaux qui étaient déjà le produit, donc comment on présente le produit, comment on présente le vigneron, parce que c'est ça qui est très important. Nous, on est vraiment un intermédiaire entre le client et le vigneron. On est un partenaire, commercial. Et donc, on veut pouvoir présenter le vigneron, on veut que le vigneron raconte son histoire. Donc ça, c'était notre premier axe de comment on met ça en œuvre. Le deuxième axe, bah, c'est quand même du vin, du champagne. Donc, c'est des produits qui sont très fragiles, où il y a quand même un frein aussi à l'achat pour les consommateurs en termes d'achat en ligne. Donc, le deuxième axe, c'était d'être vraiment très fort en termes de logistique. Donc, ça, c'était le, deuxième partie de notre travail. Et la troisième partie, c'était de proposer un service client de grande qualité avec des conseils, des sélections personnalisées, d'être évidemment très réactif aux demandes des différents clients. Donc nous, on a travaillé là-dessus pendant 2017 à 2020, donc pendant 3 ans, un an par partie à peu près. Et là, aujourd'hui, on est dans la communication et c'est là qu'il nous manque pas mal de compétences. Et ma question aujourd'hui, c'est sur le dossier de presse. Mmh. Comment bien rédiger son dossier de presse? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, déjà, tout simplement? Quels sont les éléments qu'un journaliste va attendre dans ce type de dossier? Est-ce qu'il y a également une différence entre un dossier et un communiqué de presse? Sur quoi il faut s'axer? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est l'un ou l'autre?
Ah, puis, intéressant.
Et puis surtout, évidemment, est-ce qu'il y a des petits tips pour attirer un peu le regard des journalistes qui sont évidemment bien pris et qui ont beaucoup de sujets en ce moment avec toutes les super startups et les super entreprises qui se créent. Comment on attire leur attention?
Alors, écoute, je vais commencer si ça te va. Déjà, je te remercie pour ta question, elle est intéressante et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se la posent. Il se trouve que moi, je peux pas dire que c'est une de mes spécialités, mais c'est vrai qu'on a démarré Gemio en travaillant beaucoup la presse. On a eu beaucoup de presse, donc en tout cas, je sais comment au début on a fait. Ce que je veux quand même dire, c'est il y a une réalité, c'est que quand moi j'ai lancé ma boîte en 2011 et maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, et notamment le fait que la presse, comme tu le sais, souffre beaucoup du digital, des réseaux sociaux, du monde de l'influence, qui finalement a pas mal pris son relais à certains égards, et qu'aujourd'hui, il faut quand même réaliser qu'il y a des gens qui consomment uniquement des médias digitaux non payants, qui fait que la presse, on le sait, hein, a des soucis notamment de business model, et cherche vraiment à se renouveler pour réussir à faire en sorte d'avoir plus de chiffre d'affaires. Et la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que je veux quand même pas commencer par les mauvaises nouvelles, mais je suis obligée de te le dire. La presse, c'est plus que c'était, c'est pas facile. C'est même assez loin d'être facile de réussir à avoir des parutions, surtout pour la presse, on va dire, produit. C'est un peu moins le cas pour ce que j'appelle la presse corporate, c'est-à-dire la presse vraiment d'information, type BFM, type Le Monde, etc. Alors, je te dis pas que c'est facile d'avoir un article dans Le Monde, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces journaux-là, si tu veux, continuent à faire des articles sur des nouvelles tendances, sur des nouvelles boîtes qui ne les payent pas pour le faire. Je dis pas que c'est 100% payant quand on est sur la presse produit, mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est que si tu n'es pas annonceur sur de la presse plus lifestyle, c'est quand même assez difficile de réussir à percer, et c'est pas de la faute des pauvres journalistes, hein, qui n'y peuvent rien, je pense d'ailleurs qu'ils sont pas dans une situation facile, bien au contraire, mais simplement, en fait, ils sont un peu devenus aujourd'hui journalistes et puis commerciaux, quoi, hein, faut quand même dire la vérité. Et donc tout ça pour te dire que c'est pas facile. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais je veux quand même t'ouvrir un peu les chakras et te dire que quand on parle de presse, aujourd'hui, il faut vraiment le prendre au sens large, en fait. Et pour moi, maintenant, le nerf de la guerre, c'est moins uniquement les relations presse, mais c'est ce que j'appellerais les relations publiques, à savoir aussi de l'influence, mais de l'influence, tu vois, tout autant sur Instagram que sur d'autres réseaux. Aussi, d'ailleurs, de la relation publique pure, c'est-à-dire des personnes qui ont un réseau physique important et qui peuvent être utiles, c'est en fait quelque chose qui est à travailler. Et donc, si tu veux, le dossier de presse, il est à constituer, et les outils presse sont toujours utiles, mais je pense sont aussi maintenant plus polyvalents, tu vois, que ce qui pouvait être le cas avant. Avant, les choses étaient très très formelles, entre guillemets. Tu avais ton dossier de presse, tu avais tes communiqués de presse, et en gros, ça se passait de manière un petit peu mécanique. Maintenant, sincèrement, c'est moins le cas. Donc, ce que ça signifie, c'est que déjà, il y a plein de boîtes, sincèrement, qui n'ont pas de dossier de presse, parce qu'en fait, ça prend du temps d'en faire un, et qui se contentent d'avoir des communiqués de presse. Alors, du coup, c'est quoi justement la différence entre les deux? Assez simplement, le dossier de presse, c'est un dossier qui va rassembler tous les éléments autour de ta marque. Dis-toi que si jamais tu veux faire comprendre à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui pourra reprendre des éléments de ce dossier de manière très factuelle, ça doit être dans le dossier de presse. Donc, typiquement, tu auras l'histoire des fondateurs, tu auras les quelques chiffres clés, tu auras votre différenciation, t'auras l'histoire de la marque, t'auras, tu vois, des focus, par exemple, sur certains produits ou viticulteurs que vous voulez mettre en avant. Donc, en fait, c'est vraiment un dossier et chacun l'adapte à sa manière, hein. Nous, par exemple, avec Généo, il se trouve qu'on en a un, qui est plus un outil, en fait, qu'on va donner à des journalistes quand on a des demandes pour leur donner, en fait, un backlog avec toutes nos informations. C'est vraiment ça, c'est que ça va te permettre de concentrer la substantifique moelle des informations qui sont utiles à un journaliste. En général, tu n'envoies pas un dossier de presse s'il ne t'est pas demandé. Envoyer un dossier de presse pour un dossier de presse, le journaliste qui reçoit 150 000 messages par jour et qui déjà a à peine le temps de se doucher, si tu veux, il n'a pas envie de se taper un PDF avec 30 pages. Donc du coup, c'est vraiment plus un outil froid, c'est-à-dire que c'est un outil que tu vas donner si jamais tu as un journaliste qui est intéressé et qui veut creuser un sujet qui te concerne. Et du coup, tu peux l'adapter, c'est un peu comme une, pas une dissertation parce qu'il faut que ça soit beau, mais il y a un plan et chacun l'adapte en fonction de ses besoins, mais en général, je te dis, c'est l'histoire de la marque, l'histoire des fondateurs, le concept, et ensuite, quelques chiffres clés, c'est toujours intéressant, et ensuite, tu vois, des points spécifiques par produit, tu peux avoir une page par viticulteur, par exemple, qui seraient les plus, ceux que les plus prestigieux, ou ceux qui a le plus envie de mettre en avant. Ça serait le dossier de presse. Le communiqué de presse, à l'inverse, c'est vraiment quelque chose de très court, en général, une page Word, si tu veux, qui peut être jolie, hein. Ça t'empêche pas de mettre des belles images dessus. C'est surtout toi, en fait, t'es dans un domaine quand même où je pense qu'il peut y avoir de très beaux visuels.
Non, il y a des super images de vignes, de vignerons aussi.
Exactement. Donc, pareil, d'ailleurs, dans le dossier de presse, bien sûr, il faut que ça soit imagé, il faut que ça donne envie d'être lu, tout simplement. Et donc, le communiqué de presse, lui, c'est autre chose. C'est donc, en fait, une page qui va parler d'une actualité. Et donc, le dossier de presse, t'as compris, est très différent parce que c'était froid, comme je te le disais. Et c'est, on va dire, c'est ta plateforme de marque, quoi, hein, sincèrement. Alors que, à l'inverse, le communiqué de presse, c'est vous avez une actualité, vous avez réussi à sécuriser un nouveau viticulteur trop cool qui ne fait des partenariats avec personne et chez vous, il l'a fait parce qu'il vous apprécie, bam. Vous communiquez sur le fait que vous avez fait une levée de fonds, vous communiquez sur le fait que vous avez atteint tel chiffre d'affaires. Peu importe, et c'est ça en fait tout le travail justement de communication, c'est de trouver des angles qui soient des angles intéressants pour des journalistes, et à chaque fois tu fais un communiqué de presse. Petit aparté quand même dans ce petit cours, si je peux me permettre, c'est en fait un communiqué de presse, souvent ça prend la forme d'un joli Word si tu veux, avec en format PDF, hein, mais un texte situé avec des images. Mais franchement, à ce stade, les journalistes ont tellement de choses à faire que tu peux te contenter de faire un communiqué de presse en fait directement par mail, si tu veux, c'est-à-dire faire un très bon mail dans lequel tu vas expliquer ta nouvelle actu en visant des journalistes. Donc, ça peut fonctionner aussi. Et d'ailleurs, de plus en plus de marques ne passent plus vraiment par des communiqués de presse, se contentent en fait d'envoyer des mails. Et si jamais il y a un retour intéressé, là ensuite, vont donner le communiqué de presse. Une fois de plus, je te le dis, la difficulté aujourd'hui des relations presse. Et je dis pas ça du tout pour te faire peur, parce qu'il y a encore vraiment des possibilités, hein. Mais il faut se mettre à la place des journalistes qui ont peu de temps et qui aujourd'hui sont contraints par beaucoup, beaucoup de flux d'informations et aussi beaucoup de contraintes budgétaires qui font que, si on est honnête, parler d'une marque jeune, qui va pas les payer, c'est pas quelque chose, ils le font pas autant que de parler de très grosses entreprises où ils savent par exemple que ça va faire vendre leur journal parce que ça intéresse un peu tout le monde, etc. Donc loin de moi l'idée de dire que les journalistes sont des vendus qui ne font que écrire pour l'argent, c'est pas ce que je dis, mais il y a une réalité quand même quand t'es de l'autre côté de la barrière et que t'es entrepreneur. La voie est étroite. Alors du coup, comment faire pour réussir? Parce que là, j'arrête pas de te donner des mauvaises nouvelles, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette leçon de merde, Pauline? La voie est étroite, mais elle existe quand même. Et elle existe, comme je disais, quand on trouve des angles. Et c'est ça, en fait, ton job. Et c'est ça qui est sympa, en fait. C'est ça, c'est la partie créative. C'est de se dire, OK, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter qui va intéresser des journalistes? Et là, la première erreur que font les gens, c'est de parler d'eux. Un journaliste de base n'en a rien à foutre de parler d'une marque. Il veut pas lui faire de la pub, c'est pas son métier. Un journaliste, ce qu'il veut, c'est en fait éduquer son consommateur ou la personne en fait qui va lire le journal, lui apporter vraiment de la valeur et de l'information. Il a une horreur, c'est avoir l'impression que donner l'impression qu'il n'est pas indépendant. C'est l'indépendance de la presse, quelque chose de très important. Et donc le journaliste veut toujours se prémunir d'avoir l'air d'être en train de faire de la pub. Donc c'est pour ça que faire un communiqué de presse qui dit « on est formidable, on a lancé tel nouveau produit », Ça peut marcher typiquement si jamais t'es aussi annonceur, mais en réalité, si t'es une jeune marque qui démarre, c'est rarement quelque chose qui fonctionne, sauf si t'as un service qui est tellement différent que ça peut intéresser un journaliste parce qu'il va se dire « Tiens, ça apporte vraiment de la valeur ajoutée à mon audience. » Et là, il faut avoir un petit peu de lucidité. Tout le monde se dit « Oui, mais moi, c'est tellement incroyable mon nouveau service que ça intéressera. » La réalité, c'est que dans 98% des cas, non, ça n'intéresse pas un journaliste. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de réfléchir à ces fameux angles, des angles qui sont plutôt, on va dire, des grandes tendances de marché. Donc, tu vois, toi, par exemple, tu pourrais te dire, OK, je sais pas, il y a une nouvelle étude McKinsey qui est sortie, je te dis n'importe quoi, hein, j'imagine quelque chose. Il y a une nouvelle étude McKinsey qui est sortie qui explique que la nouvelle tendance, c'est le consommer local. C'est que maintenant, la nouvelle génération, je sais pas, des 25-35 ans, ne veut plus consommer des produits qui sont faits au fin fond de la Chine et qui sont distribués de manière globale sur la Terre entière, mais veulent vraiment de la proximité, veulent comprendre en fait qui est le producteur. Et du coup, ça, c'est une tendance de fond, si tu veux. Et vous, vous inscrivez dans cette tendance de fond dans la zone, enfin dans le secteur de la viticulture, ce qui, il se trouve, n'a jamais été fait. Là, tu vois, ça devient un angle pas inintéressant pour un journaliste. Je te dis pas que tu vas avoir 150 000 articles, mais par contre, si tu veux, tu lui prémâches un peu le travail en lui montrant, si tu veux, qu'il doit pas juste parler de toi, mais qu'il doit parler, en fait, d'une tendance et que tu seras un exemple pour illustrer, justement, cette tendance. Et d'ailleurs, rien ne t'empêche, dans ton communiqué de presse, d'illustrer via aussi d'autres secteurs d'activité. T'es pas obligé de te tirer une balle dans le pied en montrant tes concurrents. Mais par contre, tu peux dire, bah, il y a cette tendance du locavore. Il se trouve que nous, on l'illustre et on est les héros de cette tendance dans le secteur du vin. Mais par exemple, dans le secteur du food, il y a ça. Dans le secteur des vêtements, il y a ça. Dans le secteur du meuble, il y a ça. Et du coup, là, tu vois, ça devient intéressant parce qu'une fois de plus, tu parles d'une tendance. Tu parles pas uniquement de toi. Si tu fais ça et que tu vises aussi des bons journalistes plutôt dans des secteurs corporate où je te disais c'est un petit peu plus facile, c'est la réalité, que dans des secteurs lifestyle. Donc quand je dis corporate lifestyle, c'est vraiment plus soit des magazines féminins, soit des magazines, tu vois, comme, je sais pas, le Figaro magazine, ce genre de choses où on parle vraiment de lifestyle. Ça, c'est plus difficile parce que ce sont des supports qui en général nécessitent tout simplement d'avoir beaucoup d'annonceurs. Et donc, qui peuvent moins se permettre, malheureusement, aujourd'hui, de parler de petites marques. Je dis pas qu'ils le font jamais, mais c'est vrai que c'est moins le cas. Alors que sur du pur corporate, c'est-à-dire du BFM, c'est-à-dire les échos, ce genre de choses, tu vas plus facilement, en fait, avoir accès à des papiers de fond sur des nouvelles tendances. Et donc, si tu trouves un angle un peu comme ça, avec un communiqué de presse, par exemple, ou avec un bon mail bien rédigé, eh bien, tu pourras tout à fait avoir de très beaux articles. Et la bonne nouvelle, par contre, de la presse, c'est qu'une fois que tu commences à avoir des articles et que tu commences à être dans le radar d'un certain nombre de journalistes, eh bien, c'est vraiment très vertueux et tu vas avoir de plus en plus d'articles. Je dis pas que tous les journalistes se regardent entre eux, là, on va vraiment avoir l'impression que je maîtrise la presse, c'est pas le cas. Mais il y a une réalité, c'est que c'est rassurant aussi, si tu veux. Et ça, c'est normal, c'est la recommandation. Si t'as eu un article dans les Échos qui a parlé de cette nouvelle tendance en vous citant en exemple, eh bien, ensuite, t'auras quelqu'un du Figaro, du Monde, de je ne sais quoi, qui va se dire « Ah bah si les Échos en a parlé, ça doit être que c'est sérieux. » Et donc, il va plus le considérer, si tu veux, que si jamais en fait, tu n'as pas eu cet article. Et donc, c'est la triste vérité, mais la première fois, c'est toujours le plus dur. Et une fois que tu commences à engranger la machine, ensuite, ça devient quand même un petit peu plus simple jusqu'à un certain stade, puisque ensuite, si jamais vraiment tout le monde a parlé de toi, à l'inverse, les journalistes n'ont plus envie de parler de choses qui sont vues et revues. Donc, c'est un équilibre, mais il y a un peu cette phase dorée, on va dire, cet apogée, où t'es pas encore connu, tout le monde n'a pas encore parlé de toi, mais suffisamment quand même pour que ça éveille un petit peu la curiosité et surtout qu'on se dise que c'est sérieux. Et à ce moment-là, ça peut être une très, très belle opportunité pour avoir aussi des contenus gratuits de communication, quoi, qui est quand même assez fou quand on y pense.
Oui. Ah, super, super.
Donc je sais pas si j'ai répondu à tes questions,
mais
je pense que pour moi, si tu veux, le travail pour toi, et c'est quelque chose que je dis assez souvent à mes propres équipes, hein, c'est que finalement les outils, c'est moins ça qui compte. Il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit beau, ça c'est sûr, parce qu'il faut que ça te donne envie. Une fois de plus, mets-toi à la place de ces gens qui reçoivent 150 000 messages par jour. Ils ont pas le temps. Ils ont pas envie de base. Ça les saoule quand ils reçoivent un mail, franchement. Et du coup, il faut juste se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour être pas trop pushy, juste leur donner envie, paraître sincère, sympa, que ce soit différent, qu'ils aient envie, quoi, tout simplement, d'en parler. Et donc, ben, être sympathique permet d'ailleurs de plus, si tu veux, attirer la générosité que si jamais juste tu dis, il faut absolument que vous parliez de moi. Moi, il m'est déjà arrivé, puisque maintenant je suis un peu média aussi avec le gratin, je reçois en fait des communiqués de presse et j'ai parfois envie de répondre mes mails en disant, mais en fait, si vous envoyez un mail comme ça à d'autres journalistes, moi, à la rigueur, c'est pas grave, mais vous êtes blacklisté, quoi. Enfin, parler de moi, à limite, ça ne se fait pas. Donc, il faut juste, attirer la sympathie. Et je pense qu'il faut avoir un sujet, un vrai sujet intéressant. Et le meilleur conseil que je puisse te donner, je pense, c'est vraiment de trouver des angles qui ne parlent pas que de toi, mais où ton métier, ton activité est une illustration d'une tendance de fond, qui permettra donc à un journaliste, si tu veux, de se rassurer sur le fait que s'il parle de toi, finalement, c'est pas juste pour te faire de la pub, c'est aussi parce qu'en fait, ça va vraiment avoir de la valeur ajoutée pour son audience. Et c'est plutôt cool de le voir comme ça, c'est-à-dire de se dire que le journaliste, en fait, justement, il n'est pas là juste pour parler de telle ou telle marque et pour faire sa pub. Non, en fait, il est là parce qu'il cherche à comprendre des tendances de fond. Et du coup, ben, il n'a qu'une crainte, c'est justement en fait que ce dont il va parler, parce qu'il faut quand même se mettre à sa place, il a une certaine responsabilité hein, vis-à-vis de son audience, s'il va parler d'une marque, il faut qu'il soit convaincu qu'elle traduit bien cette tendance de fond. Et donc ça, c'est à toi, en tant que marque, de lui faire comprendre quelles sont les tendances intéressantes dont il peut parler.
Bien noté tout ça. Et du coup, je note bien quand même qu'on aurait plus de chances vers des journalistes de grosses structures finalement.
C'est pas forcément grosses structures, ouais. Mais disons que c'est ce que j'appelle corporate, c'est des magazines, tu vois, ça va être l'Express, ça va être qu'est-ce qu'il y a, donc je te parlais des Échos, je te parlais évidemment du Figaro, digital et papier. Il y a aussi des plus petits médias, tu vois, style Madines, tu vois, ce genre de choses.
Oui, il y a eux aussi, oui, c'est vrai.
Ce que je veux dire par là, c'est que la presse féminine ou lifestyle, qui va parler de déco, qui va parler de produits, en fait, est tellement soumise, si tu veux, enfin, a tellement besoin d'annonceurs et tellement là pour parler de produits que en fait, ils sont sursollicités. Alors que la presse corporate est moins sollicitée parce qu'en fait, elle parle plus d'actualité, si tu veux. Et donc, je pense qu'il y a moins de gens, naturellement, tu vois, qui leur envoient des communiqués de presse toute la journée, alors que tu peux être sûr que si tu travailles chez elle, je pense que tu t'en prends toute la journée. Donc, tout ça pour te dire que je pense qu'au-delà de votre cible à vous principale, qui est probablement peut-être quand même des magazines de vin, tu vois, j'imagine que ça peut être pertinent quand même, tu as vraiment tout un pan qui peut être assez intéressant, effectivement, et qui est souvent un peu sous-exploité par les marques, parce que souvent, les agences de presse aussi... Bon, je fais des généralités, c'est pas toujours le cas, mais assez souvent sont spécialistes plutôt justement de la presse produit et moins de la presse corporate. Eh bien, tu pourrais tout à fait, toi, avoir une différenciation sur la presse corporate et donc essayer de raconter des histoires à des médias qui sont des médias plus d'infos ou d'actualité, tu vois, versus des médias produits. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec Gémio au début, hein. pas par envie de ne pas parler de produits, mais simplement que c'était plus simple. Et donc nous, les premiers articles qu'on a eus, c'était les Échos, c'était j'essaie de me rappeler, on a eu même des JT, tu vois, de TF1, des choses comme ça. C'était des choses, si tu veux, qui étaient sur des tendances de fond, une fois de plus, du monde et d'actu, on va dire, tu vois, de consommation. Et non pas vraiment spécifiquement sur nos produits. Nos produits, c'est venu beaucoup plus tard.
D'accord, ouais. Ouais, cool.
Donc ça, il y a un petit travail de ton côté aussi à faire en ciblage. Si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez aussi passer par une agence, bien sûr. Donc une agence de relations presse. Ils sont aussi là pour ça parce que c'est quand même un job qui est assez chronophage. Et puis surtout, l'avantage de l'agence de relations presse, c'est qu'en fait, elle a des contacts. En fait, elle connaît, tu vois, directement tel ou tel journaliste. C'est plus facile forcément, tu vois, de se faire un, voilà, d'avoir un article quand tu connais la personne, tu lui passes un coup de fil, tu lui dis écoute, qu'est-ce que t'en penses, c'est vraiment hyper sympa, je t'assure, rien. Alors que si jamais tu reçois un mail de quelqu'un que tu ne connais ni d'Avdi d'Adam, forcément c'est un peu plus dur. Après, une fois de plus, ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible. Et surtout, je t'assure, je pense notamment à BFM Business, franchement, ils ont vraiment, je trouve, joué un rôle colossal dans le fait de faire connaître des startups en France, on en fait partie, mais on leur doit beaucoup. Ils ont vraiment aidé des boîtes à se faire connaître en parlant d'elles. Et ça, je pense que ces réseaux-là, il faut pas hésiter à les utiliser parce que ça te fait à la fois de la légitimité et en même temps une très très belle audience, bien sûr, qui regarde ces canaux. Donc sur un angle un peu plus corporate, mais pourquoi pas, ça peut être aussi très intéressant.
Oh ben super.
Voilà, donc petit listing à faire, ouais, et surtout réfléchir donc à des angles. Et je pense que si tu fais ça, il faut s'accrocher, il faut relancer, il faut se mettre en place un petit process. Moi, ce que je t'invitais à faire au début, c'est vrai, c'est pas uniquement réfléchir en termes journalistiques, mais en termes plus larges, si tu veux, de personnes influentes, quoi. Donc, à la fois des influenceurs, surtout que des influenceurs, si tu veux, aujourd'hui, ils peuvent avoir des réseaux qui sont vraiment très important, avoir une audience très importante et un impact, tu vois, de prescription très important. Et puis peut-être qu'ils sont moins sollicités, ils sont très sollicités aussi, mais ils sont peut-être moins sollicités sur ton secteur d'activité. Et donc peut-être que c'est intéressant. En tout cas, c'est à tester. Ça peut être le cas au-delà des influenceurs sur des réseaux physiques, tu vois, je sais pas, le Rotary Club. Pas obligé de prendre des gros réseaux, hein. Il y a des réseaux parfois de 30 personnes, mais c'est aussi ces relations publiques, c'est très chronophage, mais c'est aussi un bon moyen de faire connaître sa marque gratuitement. C'est juste beaucoup de temps.
Oui, bah c'est toujours le problème, hein, de tous les sujets,
c'est
le
sûr.
Temps.
Bah, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire des choix et que je pense qu'il faut se focaliser. Ce que je trouve trop chouette dans ce que tu m'as raconté, c'est que vous ayez une stratégie, on va dire, en silo, tu vois, par année. Donc oui. Là, si c'est l'année de la communication, ben, allez-y à fond, franchement. Peut-être le fais pas tout seul, soit, tu vois, accompagné, je sais pas combien vous êtes dans la boîte, mais... peut-être avoir une personne vraiment en charge de la com qui puisse y consacrer du temps, parce que si toi t'es CEO et que t'as autre chose à faire, c'est bien, hein, que tu le fasses, et ça a toujours un poids plus important que le fondateur s'implique personnellement dans les relations presse ou dans l'influence.
Ouais, puis on voit beaucoup les.
Ouais, bien sûr.
On voit beaucoup Pauline Léniaud, évidemment. On te voit beaucoup. On voit beaucoup Guillaume Gibault aussi, donc.
Ouais, mais tu vois, Pauline Léniaud et Guillaume Gibault, ils sont pas seuls, hein. Tu sais, nous, on est la face émergée de l'iceberg. Donc, Guillaume Gibault, je le connais bien. Moi, je me connais bien. Je sais très bien qu'en fait, il y a des équipes derrière. Et que la raison aussi pour laquelle on nous voit beaucoup, c'est parce que justement, on a su construire des équipes. Alors, au début, on le faisait seul, hein. C'est vrai.
Évidemment.
Mais ensuite, on a construit des équipes qui font que maintenant, toute la partie logistique, tout est, entre guillemets, un peu géré sans nous. Et nous, on arrive au dernier moment. Enfin, c'est quand même ça, la réalité. Parce qu'on n'a plus le temps, si tu veux, de le faire. Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'au début, tu ne le fais pas forcément toi. Mais dans ce cas, il faut prioriser. Nous, à l'époque, quand Guillaume et moi, on s'est lancé, c'était la même année, c'est rigolo, il n'y avait que la presse. Et la presse marchait très bien à l'époque, il y avait très peu d'influence. Du coup, on était très focalisés sur la presse. Toi, il faut que tu réfléchisses justement à où est-ce que tu vas consacrer ton temps. Est-ce que c'est la presse? Est-ce que c'est l'influence? Est-ce que c'est vraiment les deux? Est-ce que c'est d'autres choses? Parce qu'en fait, tout ça est très chronophage. Que si tu veux avoir un impact, il va falloir que tu consacres du temps, mais comme tu pourras pas consacrer du temps sur tous les leviers possibles, eh bien, il faut vraiment que, voilà, tu aies une stratégie, quoi, tout simplement.
D'accord.
Bon, bah, écoute, c'est un vaste sujet. J'espère, en tout cas, que c'était clair au niveau des outils et de, je pense, quelques petites pistes, que tu pourrais suivre. En tout cas, je te félicite pour le projet parce que je trouve, j'aime pas quand on dit projet d'ailleurs, pour cette belle entreprise.
Merci.
C'est un projet, c'est une belle entreprise. Et bravo à toi parce que je suis assez sensible moi aussi à cette notion, de proximité, de réussir à mettre en avant les petits producteurs. Et du coup, je vais aller faire un tour sur ton site un peu plus en détail pour regarder ça.
Merci beaucoup.
Bah, je te remercie, Quentin, et puis certainement à bientôt.
À bientôt, et merci beaucoup, Pauline.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi, peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.